Belle journée à l'écoute d'Europe 1, il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Pendant 60 minutes, on va vous montrer que la France a des idées, qu'elle sait les développer et que vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur la Journée internationale de la montagne. Les Français innovent et justement, je vous emmène en montagne. Le savoir-faire français sur les équipements des stations de ski est immense. C'est un savoir-faire que l'on exporte. Elle est l'une des plus anciennes fabriques de moutarde de France. Elle utilise toujours la même technique depuis le 19e siècle. La moutarderie Fallot, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Gastronomie et solidarité réservée dans un grand restaurant et pour chaque repas, 1 € reversé à une association. Ça s'appelle Guest Online et c'est la solution. C'est ça, la France qui bouge et vous êtes sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, bienvenue à tous. Tous les jours, entre 13h et 14h, on met en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Et aujourd'hui, je vous emmène en montagne. Il y a un savoir-faire français sur les équipements des stations de ski, un savoir-faire que l'on exporte. Anissa, on attend toutes les questions.
Bah oui, n'hésitez pas, cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez réagir, témoigner, nous parler de vos vacances au ski et de ce que vous y attendez sur les pistes de ski. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Et puis bien sûr Twitter, vos questions, vos réactions, vos témoignages avec le hashtag Europe 1.
Et pour les accueillir autour de la table dans le studio Lagardère, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Bonjour Aurélien.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Notre coach du jour, Marie-Éloi, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être là, vous êtes la fondatrice du réseau Bouge ta boîte. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui c'est la journée internationale de la montagne et la France possède sans doute quelques-unes des meilleures stations de ski au monde. Elles sont plus de 200 stations, principalement localisées dans les Alpes et les Pyrénées. Et ces stations, eh bien, il faut les équiper. Bonjour Fabien Felli.
Bonjour à tous.
Vous êtes le directeur commercial et membre du directoire de Poma. Alors Poma d'abord, c'est Pomagalski. Hein,
oui,
c'était un ingénieur polonais, c'est ça ?
Un ingénieur polonais qui a créé cette société en 1936. Il faisait partie de la diaspora polonaise qui a créé un ingénieur, un savant, et qui a créé Pomagalski et a fait le premier téléski débrayable. Et
oui.
Depuis le début, il a eu la fièvre de l'export et il a installé ses téléskis un peu partout dans le monde. Et pour vous donner un exemple, aux États-Unis, le Poma Lift était considéré comme on l'appelait le téléski. C'est l'équivalent d'un frigidaire comme une marque.
Oui, c'est devenu une marque.
C'est devenu une marque, voilà. Et on a un peu raccourci et on est devenu Poma.
Alors Poma, ce sont aussi les premiers téléphériques en 1956 à Chamonix.
Alors, on a eu des téléphériques en 1956, on a eu aussi, pour vous donner un exemple, les premiers appareils débrayables à Val-d'Isère, la DAI, premier appareil débrayable, et quelques années après, deuxième appareil débrayable, nous l'installons en Nouvelle-Zélande. Donc je dirais, depuis le début, Poma a été une maison française, basée dans le cœur isérois et basée en Rhône-Alpes, et qui s'est exportée.
Alors Marie-Éloi, notre coach.
Alors déjà quand on vous écoute et qu'on voit les téléskis avec les câbles, on pense tout de suite au bronzé avec la chanson « Quand te reverrai-je ». J'imagine que c'est super sûr, super safe, super efficace maintenant les téléskis. En plus vous exportez énormément dans le monde. Donc c'est toute cette image qu'on a des bronzés, c'est
alors,
juste
c'est
un mythe.
Terminé.
Alors ce qui est déjà merveilleux, c'est quand je vous vois avec ce sourire et je me dis, en fait on véhicule du bonheur.
Ouais,
on véhicule du bonheur, c'est qu'en fait on tout de suite on renvoie la mémoire de ces beaux moments passés dans les stations de ski françaises ou à l'international. Et c'est vrai que les téléskis, on a un peu évolué maintenant, c'est qu'on fait des appareils, des grosses télécabines.
C'est plus quand te reverrai-je.
C'est plus quand te reverrai-je, même si j'aime bien la chanson et j'aime bien le moment cinématographique. Mais c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir des systèmes de transport par câble qui sont les plus sûrs du monde. On a un niveau de transport et de sécurité qui est incroyable, et de disponibilité aussi. On pourra en parler sûrement, mais on équipe les montagnes, mais on équipe aussi les villes d'aujourd'hui et de demain.
Ouais.
Et on arrive à donner des nouvelles disponibilités de transport urbain. Et c'est vrai que nos systèmes de transport sont d'une fiabilité incroyable et véhiculent toujours du bonheur, j'espère en tout cas.
Et écologique en plus.
Totalement écologique, on est complètement décarboné. On est vraiment dans les solutions de transport clean. Et évidemment, dans la montagne, c'est notre savoir-faire. Et aussi de faire des chantiers dans la montagne avec une empreinte écologique très faible. Travaux très limités, on évite les périodes d'été maintenant le plus possible pour pouvoir faire des chantiers le plus court possible pour éviter l'impact sur la montagne.
Alors en 2000, je reviens un peu sur l'histoire de Poma. En 2000, Poma est revenu à un industriel italien, mais toute la fabrication, toute la production a su rester en France.
Alors, c'est un exemple à suivre.
Alors, racontez-nous.
C'est un exemple
justement
à suivre parce qu'en fait, cette maison qui est une maison familiale depuis le début, Jean Pomagalski, ensuite la famille Katiar, une grande famille française. Et dans les années 2000, cette société est rachetée par un industriel italien. Et à l'époque, il discute avec M. Fabius, qui était premier ministre, ou non, qui était ministre de l'économie. Et il promet de garder l'industrie en France. On est 18 ans plus tard. Poma a vraiment grossi. Le tissu industriel français a été renforcé. Cette année, en début d'année, nous avons inauguré notre nouvelle usine en Savoie, qui a été inaugurée par le Premier ministre.
Donc vous continuez à ouvrir en plus des usines en France.
Tout à fait.
Donc quoi, créer des emplois.
Tout à fait. On crée des emplois. On continue à croire dans le modèle industriel français parce qu'on a un savoir-faire.
Qu'est-ce qu'il a de plus ? Qu'est-il de particulier, votre savoir-faire ?
Des compétences, une histoire, de la connaissance. Aujourd'hui, grâce à 80 ans de transport par câble dans nos montagnes, on est capable d'avoir des gens avec une expertise très forte et qui peuvent s'exporter. Aujourd'hui, on a la chance d'être le leader mondial du transport par câble. Et aujourd'hui, on est le numéro 1 aux États-Unis. On est peut-être le 1 ou le 2 en Chine. On est vraiment dans une expertise très forte. Et grâce à nos ingénieurs français et à nos expertises françaises.
Quel est votre principal produit ? Quel est le produit que vous vendez le plus ?
Aujourd'hui, c'est la télécabine. La télécabine que vous voyez dans vos stations, c'est la télécabine qui est installée aussi dans des monts sacrés chinois ou dans une télécabine urbaine à Saint-Domingue ou à Medellin.
Elle contient, on peut transporter combien de personnes ?
À Medellin, par exemple, on est à peu près à 50 000 jours.
50 000 personnes par jour ?
Oui, par jour sur une télécabine. On transporte d'8 à 10 à 12 personnes par cabine. Et ces cabines sont fabriquées dans notre usine à côté de Grenoble, à Vérin-Tulins, qui est à côté de Chambéry. Et elles sont exportées partout dans le monde.
Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, en France, plusieurs villes se tournent vers vous pour développer aussi leur mobilité urbaine. Vous avez aussi un savoir-faire qui n'est pas seulement dédié à la montagne.
Tout à fait. Mais c'est grâce à cette expérience montagnarde, à cette expérience de mettre des appareils dans des conditions hivernales drastiques, à monter à plus de 3500 mètres, dans des conditions de vent importantes, qu'on arrive à faire des projets dans de la ville d'aujourd'hui. Et cette ville durable et cette mobilité douce, aujourd'hui, répond vraiment à un besoin du transport de demain. Un impact sur le sol très faible, un coût de réalisation très maîtrisé et aussi un coût un temps très faible pour la réalisation de ces appareils.
Alors Fabien Félix, vous êtes aussi le vice-président de l'association Cluster Montagne, qui est une grande association. Justement, Aurélien, je me tourne vers vous. C'est quoi Cluster Montagne ? Vous êtes tous dedans, j'ai l'impression.
Ça a été créé en 2012 par la région Auvergne-Rhône-Alpes. On peut traduire cluster par pôle de compétitivité. Et donc, ce Cluster Montagne fédère plus de 220 entreprises et organisations de l'aménagement de la montagne touristique française. L'objectif, c'est tout simplement de soutenir le développement de cette filière. Hein,
filière qui marche bien. Hein.
Voilà,
qui marche
très bien. 5000 emplois directs et un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Donc une association se rassembler pour contribuer à l'attractivité des stations françaises. Et ce cluster montagne permet aussi aux entreprises de miser sur l'innovation et de proposer une sorte de package complet à l'international quand des pays cherchent à créer ou développer des stations.
Justement, cette innovation, on va en parler pendant toute cette émission. On reste ensemble, on continue à parler de l'excellence française en matière d'équipement pour les stations de ski.
Il est 13h08.
Europe 1.
Assurer la sécurité dans les stations de ski, c'est la vocation du groupe MND. Restez avec nous.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag. Et aujourd'hui, on prépare les vacances d'hiver et on découvre les entreprises françaises qui équipent les montagnes et qui équipent d'excellence avec des produits innovants les montagnes françaises. Vous pouvez réagir, vous avez déjà beaucoup de questions à poser aux invités d'Elisabeth Assayag. N'hésitez pas à continuer, Twitter, hashtag Europe 1 et le 3921, c'est le standard d'Europe 1.
Oui, équiper la montagne tout en assurant la sécurité des personnes, c'est ce que fait le groupe MND, Montagne, Neige et Développement. Bonjour Martin Francou.
Bonjour à tous.
Vous êtes le directeur du développement du groupe et rien de mieux qu'un ancien moniteur de ski pour l'équipement de la montagne.
Alors c'est vrai que dans la vie de moniteur ski, c'est plutôt sur les pistes qu'on apprend à skier. Là, nous, l'origine du groupe MND, c'est une histoire un peu singulière. On a commencé avec les filets de sécurité.
C'est ça. Alors l'entreprise, elle a commencé il y a 19 ans et elle a commencé en faisant des filets pour les pistes de ski.
C'est ça.
C'est quoi les filets ?
C'est tous les filets rouges que vous voyez le long des pistes de ski. Oui. On ne souhaite pas finir dedans la plupart du temps, qu'on voit sur les pistes de ski commerciales, mais aussi sur les différents Jeux Olympiques, les différentes Coupes du Monde. Et donc effectivement, le départ de MND, c'est les filets de sécurité. Et puis c'est une success story à la française, je dirais, avec l'histoire d'un développement pour constituer une offre globale, puisqu'aujourd'hui, on a un groupe industriel savoyard, français, qui fait à la fois du transport par câble, de la neige de culture, toujours des activités de sécurité, puisqu'on est leader mondial sur...
Sur la sécurité dans les montagnes.
Voilà, la sécurité, y compris sur les avalanches, puisqu'on est leader mondial sur le déclenchement des avalanches, avec des solutions très innovantes et qu'on retrouve dans les différentes stations de ski, mais également sur les routes dans le Colorado ou les mines de l'Amérique du Sud. Et on a une dernière activité qui pourrait répondre à un besoin de nos clients, dont on reviendra peut-être, qui est de diversifier leurs activités. Où on fait
un peu de conseil.
Alors, on est vraiment un pur groupe industriel, c'est-à-dire qu'on produit 70% de ce qu'on vend et on produit également tout ce qui est activité de diversification, les via ferrata, les tyroliennes que vous voyez pour diversifier l'activité touristique dans les stations de ski.
Marie-Éloi, notre coach.
Comment vous expliquez que la France soit si douée pour les équipements en montagne? Parce que je crois que vous êtes tous les deux leaders mondiaux dans votre domaine. Quels sont nos principaux concurrents aussi? Comment vous expliquez ça, que vous soyez si performant en France?
Déjà, la France est l'une des premières destinations touristiques et du ski mondial, en compétition avec les États-Unis et l'Autriche. Et c'est vrai que dans l'arc alpin, on a des concurrents sérieux, que sont les Autrichiens, les Italiens. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait le choix de produire en France et d'exporter depuis la France. Je crois que c'est une question de culture, déjà. C'est vrai que je ne suis pas le seul moniteur de ski chez Montagne et Neige Développement. Et puis après, c'est vrai qu'on a réussi à la fois sur toute la partie innovation à être très innovant auprès de nos clients français pour ensuite exporter ce savoir-faire. Aujourd'hui, le groupe M&D, on fait 80% de notre chiffre à l'export. Et c'est vrai que le savoir-faire français est très apprécié, notamment sur toutes les nouvelles destinations du ski.
C'est énorme, 80%.
Oui, c'est énorme et d'autant plus que...
Donc le reste en France.
Voilà, le reste est en France, 22% exactement de notre activité en France. Et tous nos produits sont produits en France et notre centre...
Où en France?
En Savoie, entre Chambéry et Grenoble. Voilà.
Alors les montagnes en France, vous pouvez nous le dire, ce sont les plus sûres au monde?
Alors, les plus sûrs s'agissant des avalanches,
en
tout cas,
c'est
notre quotidien, je dirais, à la fois sur le transport par club ou sur les avalanches. Et puis, c'est vrai qu'on exporte ce savoir-faire aussi pour des nouvelles destinations auxquelles, je dirais, qu'on accompagne aussi sur ces problématiques de sécurité. Le but, quand on est en Chine, que ce soit Fabien ou nous, c'est effectivement d'accompagner le développement d'une pratique du ski qui est jugée au départ comme extrême et dont notre métier, je dirais, est de la rendre sûre et attractive.
Alors, puisque vous êtes un expert en sécurité dans les montagnes, quelle est la chose la plus importante à avoir en tête, justement, en matière de sécurité? Quel est le premier conseil ou premier produit que vous fabriquez là-dessus?
Alors, déjà, s'agissant... La réponse du moniteur ski, ça serait de bien appuyer sur le ski aval. S'agissant de nos métiers, c'est bien évidemment, on en a parlé, de la sûreté du transport par câble qui est plus approuvé, je dirais. Et puis, s'agissant de nos métiers, c'est vraiment le déclenchement des avalanches qui est un peu la
pouvoir
marque.
Pouvoir anticiper, donc.
Voilà, pouvoir anticiper, pouvoir déclencher ces avalanches. Il se trouve que nous, on a une innovation forte qui est le fait de pouvoir anticiper et déclencher les avalanches à distance. Aujourd'hui, un exploitant de station de ski peut déclencher depuis son smartphone quasiment l'avalanche la nuit dans des conditions difficiles.
Anissa,
est-ce que les conditions météo qui changent, on voit que la neige arrive de plus en plus tard chaque année, est-ce que ça a fait changer votre métier? Est-ce que vous avez fait évoluer
complètement, complètement, c'est sûr qu'il y a une vraie prise de conscience, je dirais, à la fois des décideurs, aussi des industriels. Déjà, ça a changé parce qu'en termes d'innovation, on travaille par exemple sur des canons à neige bien plus économes en énergie. Et on a aussi développé un pôle loisirs qui permet de développer d'autres activités que le ski pour pérenniser le business de nos clients.
Aurélien, je me tourne vers vous. Alors, il est bien sûr question de sécurité. Et les guides de montagne sont en train de faire évoluer leur métier.
Alors oui, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents lors de la saison dernière, avec 17 morts entre le 1er janvier et le 31 août. Et il y a eu des assises de la sécurité qui ont été organisées il y a 2 semaines à Nice pour réfléchir à la bonne manière d'éviter ces accidents. Et donc un plan a été décidé par le Syndicat national des guides de montagne pour essayer de faire évoluer leurs pratiques. Alors donc il prévoit la mise en place d'un plan RETEX, donc sous la forme d'un nouvel outil de déclaration qui est déjà opérationnel pour les guides sur leur smartphone ou sur les ordinateurs, pour avoir donc des retours d'expérience précis et pour partager ces informations en cas d'accident, ce qui n'était visiblement pas suffisamment le cas pour l'instant. Et ce plan prévoit aussi de rendre plus systématique le partage d'informations, notamment via des groupes WhatsApp, là aussi sur smartphone, pour que les infos circulent plus rapidement.
C'est ça, le partage d'informations, c'est essentiel en matière de sécurité. Marie-Éloi, vous vouliez ajouter quelque chose?
En fait, tous les deux, vous travaillez, vous avez vraiment diversifié votre activité. Quelle est la demande la plus folle qu'on ait pu vous faire, que ça soit en Chine ou aux États-Unis ou dans les pays arabes unis ou peu importe? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... qui vous a vraiment posé question avant de la réaliser?
Nous, en tout cas, sur la Chine, c'est une bonne remarque. On a une offre globale en fait, qui permet d'accompagner de A à Z l'aménagement d'un site. Les demandes les plus folles qu'on a, effectivement, viennent de certains pays émergents, dont la Chine, qui sont « Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez venir et développer une station en terrain vierge de A à Z ?» Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui.
Donc vous faites de la station de ski sur mesure, clé en main?
C'est quasiment ça, et avec tout le reste de la filière française, bureau d'études,
vous fournissez,
etc.
La neige aussi?
On fait la neige.
Non, c'est sérieux?
Bien sûr.
Mais il y a déjà la montagne, juste
alors,
ça.
Il y a déjà la montagne, bien sûr, le support, on doit le trouver. Et il y a des bureaux d'études qui travaillent dessus, des experts français pour trouver ces sites.
Donc vous fournissez la neige, les remontées mécaniques,
la sécurité et tout ce qui est...
Et les skieurs aussi?
Alors, les skieurs, non, mais...
Ils viennent tout seuls. C'est incroyable. On reste ensemble sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
On reste à la montagne pour skier. C'est bien de connaître justement les montagnes. Lumiplan a créé des solutions numériques pour les stations de ski.
La France bouge tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Elisabeth Assayag. Et aujourd'hui, on prépare les vacances d'hiver et on découvre les entreprises françaises qui équipent nos stations de ski. Vous préparez peut-être vous aussi vos vacances. Vous avez des questions à poser aux invités d'Elisabeth Assayag. N'hésitez pas. C'est maintenant qu'il faut composer le 3921, le standard d'Europe 1. Et c'est maintenant qu'il faut poster vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On vous lit dans un instant.
Et une station de ski, c'est une sorte de mini-ville qui voit sa population changer toutes les semaines pendant 5 mois. La moitié des visiteurs, en général, ne connaissent pas les lieux. Alors, pourquoi ne pas créer un plan des pistes dans les stations de ski? Bonjour Patrick Grandery.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Lumiplan Montagne. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Un plan des pistes dans les stations de ski, c'était une idée lumineuse. Et vous l'avez eu il y a 46 ans.
C'est ça. À l'époque, le fondateur de l'entreprise a constaté que les domaines skiables à l'époque du plan neige avaient une obligation de donner de l'information en temps réel sur l'état du domaine. Et à l'époque, début de saison, milieu de saison, fin de saison, la configuration était totalement différente. Et il fallait donc donner une info en temps réel, tous les jours, sur l'état du domaine. Donc sont arrivés les premiers plans.
C'était des grands plans panoramiques avec des voyants qui clignotent, c'est ça ?
C'est ça, c'est des plans qui font 3 mètres par 2 en général avec des voyants et qui indiquent ouverture, fermeture des pistes et des remontées. Et nous, à l'époque, on a mis au point le plan à lecture directe où on a la LED directement sur la piste. Donc, compréhension immédiate pour les clients qui découvrent le territoire de la situation du matin pour aller préparer la journée. Et ça existe toujours.
Et justement, ça existe toujours. Comment avez-vous fait ? Parce qu'entre le temps, le digital est arrivé. Comment avez-vous su vous transformer, évoluer ?
Si vous voulez, c'est effectivement assez étonnant parce que nous-mêmes, nous pensions que cette technologie allait être vite remplacée par le digital. Le digital est arrivé puisqu'on a, nous, on a édité les premières applis stations en 2009. iPhone 3 à l'époque, vous imaginez ?
En trois ans,
on a pris 95% du marché des stations françaises et quelques stations américaines également. Et si vous voulez, on a intégré, nous, le digital à toute notre solution. Mais le grand plan de piste que les stations appellent le Lumiplan, finalement, reste un peu la vedette et on en trouve toujours. On vient d'installer à la Plagne des nouveaux dispositifs qui combinent le plan de piste et des très grands écrans à LED avec une info de plus en plus fine sur le guidage, les temps d'attente, etc.
Marie-Éloi, notre coach.
Donc, d'après ce que je comprends, on est nombreux à vous devoir la vie, du coup.
Pas nous devoir la vie, mais avoir l'information qui peut vous éviter de faire des bêtises sur les pistes ou vous donner la bonne direction.
Et je m'adresse à vous avec votre autre casquette, parce que vous êtes également président du cluster montagne, donc du réseau qui regroupe tout.
Dont Aurélien Fleureau nous parlait tout à l'heure.
Tous les entrepreneurs concernant la montagne. Comment vous avez fait pour fédérer tout le monde et comment vous faites pour travailler ensemble et avoir des nouveaux marchés tout le temps ensemble, etc. Notamment à l'international.
C'est une organisation importante qui a été créée maintenant il y a plus de 6 ans. Fédérer les gens à partir du moment où on est sur un marché dynamique, où on a des intérêts communs, c'est finalement pas très compliqué, mais il faut mettre en place quand même toute cette dynamique de travail collaboratif. On a beaucoup de groupes de travail. Sur un peu plus de 200 adhérents, on a plus de 100 qui sont impliqués dans des groupes projets. Donc c'est très participatif. Et nous avons une énorme mission à travers du cluster montagne d'accueillir en France, de faire venir des délégations, des ministres, des investisseurs. La France est véritablement exemplaire à l'échelle planétaire sur l'aménagement des stations. Et on met ça en œuvre avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, puis comme on crée du plaisir, comme le disaient mes amis, ça facilite les choses.
Alors aujourd'hui, Lumiplan, c'est une PME de 210 personnes, c'est ça ?
C'est ça, 210
personnes.
Avec
40
personnes.
Millions d'euros de chiffre d'affaires.
Oui, alors,
quels sont vos clients?
Pas que dans la montagne. Il y a trois métiers. Lumiplan intervient dans les transports publics, dans la ville, l'information citoyenne et à la montagne. À la montagne, on est les petits poussets de l'équipe. Mais dans ces trois marchés, le métier de Lumiplan, c'est d'accompagner le parcours client et l'expérience client.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que... On accompagne la mobilité et dans des situations, vous le disiez tout à l'heure, là, une station, c'est une mini-ville où la clientèle change en permanence et découvre. Il faut absolument qu'on facilite l'arrivée des clients dans les stations, qu'on facilite l'orientation, qu'on leur donne toutes les infos pour vivre le meilleur séjour possible, que ce soit sur les pistes, dans l'expérience de la glisse ou en été, mais également dans la station. Donc on a tout un dispositif qui est une espèce de chaîne d'information temps réel pour que les gens qui sont là une semaine sur une station... en famille ou entre amis,
ils ne se perdent pas, en fait, de leur séjour. Justement, vous avez une innovation absolument géniale, c'est ce système de mesure du temps d'attente et des flux des skieurs pour mieux répartir les skieurs sur le domaine.
Ça, c'est dingue, oui. On est un peu le bison futé du ski. mais c'est une réalité, il y a des domaines skiables qui ont une telle fréquentation. Maintenant, on n'attend plus au départ des remontées mécaniques, où on attend beaucoup moins. Et on peut avoir des pistes qui sont effectivement un petit peu encombrées. Et surtout... C'est un peu l'instinct grégaire. Les gens vont là où il y a du monde. Et avec nos systèmes, en fait, on participe à répartir
mieux. Vous fluidifiez
le flux
de skieurs.
Sur l'ensemble du territoire. Alors, ça a une incidence sur le plaisir du ski, donc la satisfaction client, sur la sécurité, et également effet induit sur la gestion du manteau neigeux et du damage. Donc, on a également un impact environnemental. Et à ce sujet-là, on vient de mettre une innovation mondiale au point. C'est une flèche toute simple avec un voyant lumineux qui indique du temps d'attente, qui indique un niveau de saturation et qui permet de guider en temps réel, en permanence, les skieurs sur le domaine, en hiver ou en été. Ça peut être des randonneurs également, avec un système temps réel complet. Et c'est un produit complètement écolo. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de câbles, c'est solaire, c'est radio. Et ça intéresse
français.
Y compris les petites stations.
C'est formidable. Aurélien, la digitalisation des stations, on le voit, hein, elle se développe et d'autres entreprises se sont mises sur ce secteur.
Oui, il y a notamment Trinom qui est un éditeur historique de logiciels professionnels, de systèmes de supervision vidéo et de webcam destinés donc, aux exploitants de domaines skiables. C'est donc une entreprise basée depuis 1993 à Annecy. C'est donc l'un de vos concurrents, mais aussi un partenaire, parce que vous avez mis en place, vous avez décidé de mettre en commun des compétences pour proposer les meilleurs services possibles sur ce marché de niche. Donc forcément, c'est plus utile d'être ensemble sur certains marchés, et notamment sur ce système de gestion d'un meilleur flux de flux des skieurs.
C'est
là-dessus que vous avez travaillé aussi ensemble, parce que c'était la meilleure manière.
Alors il y a une double dimension, c'est qu'avec Trinom, effectivement, on a été concurrents très longtemps.
Et
finalement, dans la vie, quand on se parle, on peut arriver à des bonnes surprises.
C'est souvent comme
et,
ça.
Et justement, avec eux, alors on travaille sur la notion du temps d'attente et de l'information temps réel, mais également sur le côté ludique. Nous avons, après nos applis stations, mis au point une appli grand public, Ski Plus, qui est une appli de tracking, qui permet de retrouver son itinéraire, de le retracer, d'avoir la vitesse max,
etc. Oui, avec
etc.
les courbes des dénivelés,
il y a les courbes de dénivelés, puis il y a les challenges à gagner. Donc, c'est aussi une manière d'activer la clientèle, d'animer, de mettre un côté de gamification dans le ski, parce qu'aujourd'hui il y a une thématique qui revient souvent, c'est recréer de l'attractivité, faire venir les jeunes, c'est un vrai thème pour l'ensemble de la profession, et avec ça on remet un côté un peu ludique et puis ça permet d'animer la clientèle, donc voilà, des bonnes synergies, c'est aussi un effet cluster.
On reste ensemble, on continue de parler de nos stations de ski, comment sont-elles équipées? Il est 13h28.
Europe 1.
39-21, venez, on vous attend, vos témoignages, vos questions, nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous. A tout de suite. La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h et aujourd'hui on prépare les vacances d'hiver puisqu'on découvre les entreprises françaises qui équipent nos montagnes avec beaucoup d'innovations aujourd'hui et vous êtes nombreux à poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 39-21. N'hésitez pas, vous pouvez encore composer le standard d'Europe 1 39-21 pour vos questions, vos réactions avec Elisabeth Assayag.
Et nous sommes toujours avec Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, avec Marie-Éloi, vous êtes la coach du jour, fondatrice du réseau Bouge ta boîte, et Fabien Felli, le directeur commercial et membre du directoire de Poma, Martin Francou, le directeur du développement du groupe MND, et Patrick Granderil, le directeur général de Lumiplan Montagne. Alors, on l'a compris, hein, nos entreprises françaises en matière d'équipement de stations de ski cartonnent, hein, ça marche très très fort. Et justement, on sait que l'on va vers des hivers de plus en plus chauds. J'ai envie de vous demander, votre activité est-elle durable ?
Alors,
qui veut répondre ?
Je me permets, si c'est possible,
oui,
et après je laisserai la parole à mes collègues et amis. Aujourd'hui, on a Poma, on est 80% aussi à l'export. C'est une forte exposition à l'export. Et c'est vrai que la neige reste une partie importante de notre chiffre d'affaires, surtout en France. Mais on a aussi d'autres activités comme les activités...
La ville, dont vous
parlez. La ville, bien sûr, qui est en forte croissance, poussée par les projets en Amérique latine, en Algérie, en Russie, et maintenant en France. Et aussi tous les projets de télécabines touristiques. Principalement en Asie, entre la Corée, la Chine et d'autres projets dans le monde. Donc, je dirais, on a une diversification très importante de nos solutions pour des marchés différents. Et je dirais, heureusement qu'on a cette diversification et mondiale et par nos cœurs de métier pour pouvoir répondre
aux
nouvelles tendances.
Donc, ça signifie que peut-être l'activité montagne risque de diminuer ?
Je pense que l'activité montagne ne va pas diminuer. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est quand même un marché qui se consolide. On a un marché français, par exemple, qui est important, qui est un des plus importants d'Europe et qui va, dans les prochaines années, être de plus en plus important. On a des très belles infrastructures en France. Certaines vont devoir se renouveler. Et je pense que le marché français aujourd'hui, comme le marché nord-américain, a toujours un attrait pour le ski. Et on voit d'ailleurs les taux records de fréquentation des stations de ski. Donc, je ne suis pas plus inquiet que ça. Je pense qu'il y a aussi des collègues autour de la table qui installent la neige de culture, et les solutions de neige de culture permettent aussi aux stations de ski de s'équiper.
Des neiges écolo en plus, hein, vous nous disiez.
C'est des neiges avec de l'eau et de l'air.
Avec de l'eau et de l'air.
Non, c'est vrai que Martin Franco.
Sur la neige de culture, c'est une première réponse pour accompagner nos clients, effectivement, pour conserver l'activité ski, qui est quand même le nerf de la guerre sur différentes stations. Et puis, on a une deuxième réponse qui est via, je le mentionnais tout à l'heure, la diversification d'activités pour accompagner aussi nos clients, soit pour faire des activités autres que le ski.
Donc vous aussi, petit à petit, vous êtes en train d'évoluer, un peu de transformer votre cœur de métier.
Complètement. Et je rejoins Fabien sur le sujet du transport par câble, où on accompagne aussi des villes comme Paris, d'ailleurs, auprès de la RATP pour le funiculaire de Montmartre ou des sites touristiques pour effectivement équiper différentes montagnes, non seulement centrées autour de l'activité ski, mais bien sûr le tourisme de manière générale.
Patrick Gandry.
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement l'impact climatique, qui, je pense, à court terme est... On va dire qu'il y a des aléas, mais aujourd'hui, on peut skier sur 15 cm de neige. Il y a eu des progrès énormes qui ont été faits par les exploitants qui préparent des pistes. Donc en fait, l'impact immédiat, vous disiez, la neige arrive de plus en plus tard. Ce n'est pas forcément une réalité, ça dépend vraiment des saisons. En tout cas, il y a une question pour les stations de basse altitude. Et je dirais qu'au même titre, et peut-être même avant l'évolution climatique, qui va avoir un impact fort sans doute, mais à plus long terme, on a les changements de comportement, les changements d'usage. C'est-à-dire que les gens ne skient plus comme avant. Il y a une demande d'avoir un séjour, de vivre des choses à côté du ski. Et on est également, en termes de marketing, en réflexion sur l'évolution
sur
des pratiques.
D'autres activités, autres que
d'autres activités. On n'est plus dans le tout ski. Mais tout ça, c'est un usage, une évolution sociétale. Et c'est quelque chose de complètement normal. Et c'est à nous d'anticiper, de travailler sur de la prospective, de travailler avec l'ensemble des experts de la profession pour travailler, évoluer sur ces métiers.
Marie-Éloi.
Et en même temps, depuis tout à l'heure, tous les trois, vous avez mentionné l'impact environnemental de vos activités, en montré que vous essayez de faire attention à ça, en tout cas que ça comptait beaucoup. Qu'est-ce que vous faites concrètement, justement, pour faire en sorte que la montagne, l'environnement dans lequel vous vivez, reste toujours beau, préservé et...
Alors, ça c'est effectivement une question clé. Je pense qu'on a trop longtemps opposer industrie, écologie, et notamment à la montagne. Ça peut être clivant et on n'est pas des inconscients. Nous sommes des citoyens, on a des familles, on a des entreprises qui doivent durer. Évidemment qu'on vit, on a un terrain de jeu qui est extraordinaire. Tous les gens de l'aménagement de la montagne sont des amoureux de la montagne. On n'est pas là pour bétonner à outrance. La proportion du territoire de montagne qui est aménagé, entre guillemets, elle est très très faible. Certainement beaucoup plus faible que sur des littorales, par exemple. Donc on a cette conscience-là. On travaille tous, mes amis pourront en témoigner dans leur,
oui,
dans leur partie.
Parce que vous connaissez tous, hein, on
sur
l'a bien compris.
Oui, oui, c'est un peu, une confrérie, c'est un cluster. On travaille tous pour minimiser l'impact. Je vous parlais tout à l'heure de notre innovation radio-solaire. C'en est un exemple.
Anissa, pour terminer, vous avez relevé un tweet qui vous a... Oui, parce qu'on avait beaucoup de questions sur les innovations en matière de transport de chez Poma. Vous y avez donc répondu, Fabien Félix. Et on a surtout un message d'Olivier qui nous dit « C'est incroyable le savoir-faire français et toutes ces innovations dans la France qui bouge sur Europe 1. L'émission d'aujourd'hui va me faire partir à la montagne cet hiver plutôt qu'au soleil. »
Et oui. Voilà.
Bravo, bienvenue.
Vive le savoir-faire français en matière d'équipement de montagne. Merci à vous trois d'être venus sur Europe 1.
Merci à vous.
Il est 13h38.
Europe 1.
Cette moutarderie est l'une des plus anciennes en France. Elle existe depuis le 19e siècle. C'est la moutarderie Fallot et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h et chaque jour, vous nous proposez, Elisabeth Assayag, de découvrir une entreprise française qui va bien. Celle d'aujourd'hui accompagne les meilleurs plats français.
Oui, parce que cette entreprise est l'une des plus anciennes. Elle a été fondée en 1840. Elle produit des moutardes à Beaune. Bonjour Marc Desarméniens.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le dirigeant et le petit-fils du fondateur de la moutarde Fallot.
Oui, c'est ça, tout à fait.
25 000 pots, ils sont produits chaque jour.
Oui, en fait, l'entreprise existe depuis 1840, comme vous l'avez dit, mais mon grand-père maternel a acquis cette entreprise en 1928. Voilà, et moi, je suis le troisième dirigeant de l'entreprise et je la dirige depuis 1994.
Et ça reste une histoire de famille hein, et surtout un savoir-faire artisanal.
Oui, puisque ce qui fait notre force, si je peux m'exprimer ainsi, c'est en fait dans la qualité de nos produits, puisque nous produisons nos moutardes de façon artisanale et traditionnelle, comme le faisait l'artisan moutardier, avec des matières premières qui sont sourcées localement.
Alors justement, il y a un procédé particulier qui fait que votre moutarde est différente de celle que l'on trouve ailleurs ?
Oui, bah c'est déjà lié à la qualité de la matière première. On utilise la graine de moutarde de grade 1, qui est majoritairement française et qui va être à partir de l'année prochaine 100% française, puisqu'on participe à un programme de relance de la culture de graines de moutarde en Bourgogne depuis maintenant plus de 25 ans. Et donc les proportions bien sûr d'ingrédients nobles comme la graine de moutarde sont importantes, mais aussi le procédé de fabrication qui évite tout échauffement et qui donne une qualité de pâte vraiment irréprochable.
Ah, pour nos auditeurs hein, qui nous écoutent et qui nous regardent sur europe1.fr, vous pouvez admirer les petits pots de moutarde hein, que vous nous avez apportés, moutarde au basilic, au piment d'Espelette, au vin blanc, en grains ou au cassis de Dijon. Alors, et vous utilisez une technique, si vous appelez la fameuse technique d'écrasement ?
Oui, écrasement de la meule de pierre. C'est vraiment un procédé hérité de l'artisanat du moutardier. Un peu, c'est le même procédé que les meuniers utilisaient auparavant pour produire de la farine. Et c'est un procédé dit à froid qui évite l'échauffement et qui permet de conserver dans la pâte de moutarde toute sa saveur.
Alors, vous existez depuis longtemps, on l'a dit, mais comment vous avez su résister à l'arrivée de la grande distribution des hypermarchés dans les années 70 ?
Alors là, il faut remonter à l'époque de mon père, où effectivement, mon père n'a pas cédé aux sirènes de la grande distribution. C'est ce qui a d'ailleurs fait un petit peu, qui a prononcé un petit peu la mort de pas mal d'entreprises. Mmh. Hein, le fait d'être absolument axé sur la grande distribution et de faire du volume à tout prix.
Vous avez choisi la qualité plus
la qualité, avant le volume. Oui, on aurait très bien pu effectivement évoluer au niveau de nos procédés de fabrication en utilisant des matériels beaucoup plus performants pour être plus compétitifs et pour effectivement fournir la grande distribution naissante au début des années fin des années 1960, début des années 1970. Mon père a conservé, si vous voulez, cette ligne de conduite en proposant toujours des méthodes traditionnelles pour fabriquer la moutarde. Et il y a vraiment un plus produit évident. Et si on est là encore aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ses choix.
Marie-Éloi, notre coach.
Oui, alors je trouve votre démarche vraiment admirable parce que la moutarde, je crois, avait disparu de la France ou en tout cas en partie était de moins en moins présente ici. Et vous avez vraiment voulu réintroduire la moutarde en France. Vous allez vraiment aider les agriculteurs à refabriquer de la moutarde près de chez vous.
Oui, alors c'est vraiment une démarche collective hein, qui a été faite il y a plus de 25 ans. De nombreux confrères situés en Bourgogne se sont également investis dans cette démarche. Le constat qui avait été faite il y a 25 ans, c'est qu'on avait un produit vraiment emblématique, la moutarde de Dijon, qui est connue à travers le monde. Quand vous prononcez Dijon à un Américain, il pense tout de suite à moutarde, il ne pense pas forcément que c'est en France. Mais voilà, c'est vraiment un produit qui a une notoriété très forte à travers la France et à travers le monde. Et cette matière première principale, qui est la graine, était importée du Canada. Donc on a vraiment voulu se réapproprier quelque part ce savoir-faire en réintroduisant la culture de graines de moutarde en Bourgogne. C'est une démarche de filière avec la Chambre d'agriculture. La région également nous a aidés dans cette démarche. On peut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment exemplaire au niveau français par rapport à cette démarche et à cette filière.
Et justement, cette moutarde française, vous la vendez à des pays étrangers, je crois dans plus de 60 pays.
Plus de 70 maintenant. C'est ce qui fait notre force d'ailleurs, c'est de ne pas avoir, de ne pas dépendre d'un client et d'un grand distributeur. On travaille bien sûr avec la grande distribution, parce que la grande distribution c'est aussi vertueux.
Et vous en avez besoin aussi.
Et c'est vertueux parce que maintenant effectivement ils mettent en avant des produits de qualité à travers même des marques propres qu'ils ont. Ça nous permet également d'amortir nos frais fixes. Mais tout en restant assez axé sur un produit de grande qualité et haut de gamme.
Et on peut même visiter les coulisses de la moutarderie à Beaune. Vous avez d'ailleurs agrandi votre site historique l'année dernière.
On est totalement indépendant et familial, mais on investit chaque année des sommes pour renouveler nos matériels.
Je crois 4 millions d'euros.
On a 4 millions d'euros qui sont en cours d'investissement dans de nouveaux locaux logistiques et également administratifs. On va fonctionner à l'énergie solaire. À l'échelle d'une PME-PMI, c'est vrai que je pense qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu en proposant des produits de qualité, en exportant aussi beaucoup. Je crois que c'est vraiment la clé également. Le marché français, on a vite fait le tour. Et si on veut vraiment diversifier avoir des idées, parce que c'est source d'inspiration, l'export. Donc c'est important de pouvoir vendre ces produits aussi à l'étranger.
Et c'est ce que vous faites. Merci Marc Desarmeignan d'être venu nous parler de la moutarderie Fallot. Et c'est l'entreprise qui va bien, merci. Il est 13h47.
Europe 1.
Réserver une bonne table en donnant à une association caritative, c'est la solution d'aujourd'hui dans la France qui bouge. Restez avec nous. La France bouge sur Europe 1, tous les jours entre 13h et 14h avec vous Elisabeth Assayag et avec chaque jour juste avant 14h la solution du jour. Celle d'aujourd'hui est solidaire.
Oui, aujourd'hui une solution qui permet de collecter automatiquement de l'argent pour une association caritative quand on réserve une table au restaurant. Aurélien Fleureau, il s'agit de la réservation responsable.
Oui, l'initiative est venue d'une start-up qui propose à la base aux restaurateurs un outil de gestion des réservations. L'idée a été ensuite soutenue par plusieurs grands chefs, ça va de la Tour d'Argent ou chez Bocuse également. Et donc ils ont lancé ce module de réservation en ligne qui permet de collecter 1 euro pour chaque table réservée et de le reverser à une association caritative. Et en fait, c'est l'internaute qui peut faire ce choix. Il nous suffit de réserver directement en ligne sur le site internet du restaurant et non pas de passer par un intermédiaire qui souvent prend 2 euros par couvert au restaurateur. Et pour que cela puisse se faire automatiquement, la start-up Guest Online a apporté son savoir technologique. Son fondateur, Antoine Girard, est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Tout d'abord, comment est née l'idée de cette réservation responsable?
Alors ça part à la base surtout d'un besoin de donner un peu du sens à notre travail. On est un fournisseur technologique, comme vous l'avez indiqué, pour les restaurateurs depuis de nombreuses années. Et on avait besoin d'aller plus loin, de prolonger, entre guillemets, presque le geste de réservation qu'on numérise depuis déjà de nombreuses années. Et d'apporter finalement, de ramener au centre de la restauration ce qu'ils font depuis toujours, c'est-à-dire un geste social et humain. Voilà, donc on a essayé de trouver un petit peu de quelle façon nous pourrions mettre en œuvre ça tout en s'appuyant sur notre savoir-faire. Et c'est comme ça que la réservation responsable est née.
Alors, il y a de grands noms de la gastronomie, Aurélien les a cités, qui sont déjà ambassadeurs de l'opération. Il y en a d'autres qui vont rejoindre les rangs. Comment réagissent-ils?
Oui, alors, bien entendu, on est au début de l'opération. On a lancé ça il y a à peine 6 mois. On s'est fait accompagner par de grands noms de la restauration. On travaille avec beaucoup de grands restaurateurs et on a contacté quelques-uns pour leur proposer l'idée. Donc, Vous avez cité tout à l'heure les Bocuse, vous avez cité la Tour d'Argent, il y a aussi la Maison Brasse à La Guiole, Olivier Rollinger à Cancale. Mais donc c'était un petit peu nos ambassadeurs et nos testeurs, hein, finalement, pour savoir un petit peu si les choses allaient démarrer. Ça s'est très bien passé. On a déjà récolté pas mal d'argent avec les quatre premiers. Et donc là, on est en train justement de déployer finalement cette opération au plus grand nombre de restaurants qui désirent effectivement rejoindre cette association.
Avec donc l'objectif ensuite de financer des projets d'éducation, hein, c'est ça?
Oui, alors des projets d'aide alimentaire, d'éducation à travers l'aide alimentaire. Évidemment, il y a un lien avec la gastronomie.
Voilà.
Cette année, on a le premier projet est un projet qui a été déployé au Népal. Alors, c'est pas en France pour l'instant, mais c'était le projet le plus direct et sur lequel on pouvait avoir des retours très concrets. Et puis après, on va essayer d'avancer sur d'autres projets. Et très concrètement, on a mis en place, la cantine scolaire a été ouverte le 18 novembre, donc c'est assez récent. La mise en place donc de repas scolaires dans une école d'un village reculé du Népal, pas loin, enfin à 8 heures de route de Katmandou, pour être précis, où on peut nourrir pendant un an maintenant plus de 90 enfants. Donc ces enfants
vont bénéficier pas
permet de scolariser les enfants.
Et en deux mots, concrètement, comment ça se passe si moi je suis intéressée pour aller dans un restaurant qui travaille avec vous, comment ça se passe pour que je puisse aider justement cette école?
Alors, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous, de votre
juste
côté,
réservé,
en tant que consommateur. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un geste responsable. Le geste responsable, ça veut dire que plutôt que de passer par une plateforme...
On va sur quel site?
Alors, vous allez sur le site du restaurant. En fait, le restaurateur vous indique qu'il participe à cette opération par un petit logo réservation responsable qui est situé en bas de son module de réservation sur son site. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne liste pas, on n'est pas un annuaire. Hein. Attention, ne pas confondre avec les centrales de réservation qu'on connaît. Nous, on est un fournisseur technologique pour les restaurants, donc on n'est pas connu du grand public. Hein. La marque Guest Online n'a pas vocation.
On va sur le site du restaurateur et à ce moment-là, on effectue la réservation et 1 euro sera reversé. Merci Antoine Girard d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Marie-Éloi, vous étiez notre coach du jour. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du réseau Bouge ta boîte. Aurélien, on se retrouve demain. Vous retrouverez, ou alors ce sera moi avec Raphaël Duchemin parce qu'on embrasse très fort. Mmh. Apparemment, elle va revenir demain, donc on est ravis et nous l'embrassons. Et demain, nous parlerons de l'intelligence artificielle à l'école, Anissa.
À demain, Elisabeth Assayag. Dans un instant, à 14h pile sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat et ses récits incroyables. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vous raconte un bout de la vie d'Elisabeth II, reine d'Angleterre, de sa naissance en 1926 jusqu'à son sacre en 1953.
De la princesse Elisabeth à la reine Elisabeth II, c'est le parcours que vous raconte aujourd'hui Christophe Ondelat à 14h sur Europe 1.